critique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 22 mai 1992.
Nous allons continuer la critique de l'intelligence. Bien comprendre la diversité de nos jugements et par le fait même la diversité des modalités de la vérité. Je crois ça très important pour nous de comprendre le caractère analogique de la vérité. Vous voyez, alors en critique, c'est la vérité formelle. En métaphysique, c'est le vrai ontologique. Vous compreniez bien les perspectives différentes. Et en philosophie du vivant, c'est l'opération vitale. Alors tout ça se rejoint, c'est la même réalité qui est regardée, mais sous des aspects différents. Alors, le premier jugement, le plus radical, c'est le jugement d'existence. Ça, on l'a déjà vu en regardant le jugement. Mais je crois qu'il est bon de nous montrer que ce jugement spécifie l'intelligence dans ce qu'elle a de plus fondamental. C'est l'éveil de l'intelligence. L'intelligence s'éveille par le jugement d'existence. Et elle s'endort dans la mesure où on met le jugement d'existence entre parenthèses. Et quand Heidegger dit l'oubli de l'être, j'aurais mieux aimé qu'il dise l'oubli du jugement d'existence. C'est beaucoup plus vrai. C'est pas l'oubli de l'être. On a toujours continué d'en parler, mais on en a mal parlé. Et Heidegger lui-même en parle mal, avec tout le respect qu'on lui doit. Puisque penser l'être, c'est pas l'être. J'espère que vous commencez à le comprendre. Comme pour Descartes, cogito ergo sum, eh bien, le ergo sum fait que ce n'est plus l'être. Dans la lumière du cogito que je saisis l'être, donc je ne saisis plus l'être. Comme pour Heidegger, penser l'être, vous voyez, Descartes, Heidegger, tous les deux ont des très bonnes intentions. Mais on sait que les bonnes intentions au niveau critique, c'est pas ça qu'on attend. On attend d'aller jusqu'au bout des exigences de l'intelligence. Alors, comprenons bien que ce jugement d'existence, ceci est, il réveille ce qu'il y a de plus naturel en nous, ce qu'il y a de plus naturel dans l'intelligence. Mais il est très difficile, parce que nous avons 4 siècles de critique sur le dos, et qu'on croit toujours que ce jugement d'existence dépend de la critique. Alors que c'est toute la critique qui dépend de ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence, il est naturel. Il est naturel pour l'intelligence de saisir ce qui est. Elle est faite pour cela, l'intelligence. Même s'il y a eu des détournements très fonciers, l'intelligence demeure avec sa capacité naturelle de saisir ce qui est. Et l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, est portée vers l'être. Il y a un appétit naturel de l'intelligence vers l'être. Un appétit naturel, foncier. Ceci rejoint, alors je mets ça en nota bene, si vous voulez, pour mieux comprendre saint Thomas. Ceci rejoint ce que dit saint Thomas. Primo cadit in intellectus ens. Cette phrase de saint Thomas, cet axiome que saint Thomas ne cesse de répéter, est l'axiome fondé sur le jugement d'existence. Si vous acceptez le jugement d'existence, ceci est. l'axiome de ce jugement d'existence est primo cadit in intellectus mens. Vous voyez, parce que dans le primo cadit in intellectus mens, vous voyez bien ce que ça veut dire, je le traduis, hein, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Alors, cadit, on l'avait vu, c'est une traduction de l'arabe. Alors, c'est ce que l'intelligence reçoit en premier lieu. On reçoit une balle qui vous tombe dans les mains. C'est bon. Cadit, on la reçoit. Et c'est la capacité radicale de l'intelligence, son ouverture vis-à-vis de la réalité. Et c'est ce qu'elle reçoit en premier lieu. Alors, primo, est-ce le primo génétique? Est-ce le primo de nature? Il faut le préciser en critique. Alors, je ne peux pas dire que c'est le premier génétique. Parce que je ne sais pas quel est le premier génétique. À quel moment j'ai posé cette question à des psychanalystes pour les mettre évidemment dans l'embarras. Posez ça toujours à des freudiens. Ah, avec votre méthode psychanalytique, vous arrivez à découvrir à quel moment l'intelligence s'est éveillée. Alors, s'ils sont intelligents, ils vous répondent. La méthode psychanalytique n'est pas faite pour ça. Et vous dites, c'est bien dommage. Parce qu'en fond, Freud ne s'est intéressé qu'à l'affectivité. Or, l'affectivité ne peut être critiquée que par l'intelligence. Alors là, vous donnez le coup de patte le plus vigoureux qui soit à la psychanalyse freudienne. Je ne peux critiquer mon affectivité que par la connaissance qui éveille l'affectivité. Parce que ça me montre la profondeur de mon affectivité. L'affectivité, par elle-même, ne se critique pas. Mais c'est par l'intelligence que ça se critique. Je ne peux pas aimer sans connaître. Si je regarde l'affectivité sans la connaissance, nécessairement, j'arriverai à regarder en premier lieu l'affectivité instinctive. C'est ce que fait Freud. Mais l'affectivité instinctive, je ne la critique pas. Je ne critique pas l'instinct. Je le constate. Nous avons tous un instinct de nourriture, tous un instinct sexuel. Non, tous. On ne le critique pas. On sait qu'il existe. Ce qu'on peut critiquer, c'est l'affectivité volontaire, l'affectivité passionnelle. Ça, on peut la critiquer. Et ça, on ne la critique pas, l'intelligence. Alors, voyez, le premier jugement intellectuel que vous avez posé, rappelez-vous ça, dans votre jeunesse, est-ce que c'est lorsque vous avez dit papa ou maman? Lorsque vous avez eu faim, vous avez crié. Votre premier cri est perdu dans les catacombes humaines. C'est bien évident. Vous ne vous souvenez absolument pas. Or, c'est le premier moment de l'affectivité, c'est le cri. Donc, le primo, c'est dans l'ordre de perfection. L'intelligence s'éveille en saisissant l'être, en adhérant à l'être. Je ne peux pas saisir le premier moment de ma vie intellectuelle. C'est très impressionnant, du reste. Ce qui prouve que je ne peux pas saisir le premier moment de ma vie affective. C'est votre premier moment de votre vie affective. Conscient. Le premier moment de l'amour du petit enfant pour sa mère. Conscient. Je ne peux pas le saisir. Je sais qu'il existe. C'est forcé. Toujours un premier. Mais dans l'ordre du devenir, dans l'ordre du conditionnement, je ne peux pas le savoir. n'apparaît que dans la pensée. Si l'être n'apparaît que dans la pensée, l'être est toujours lié à l'intentionnalité. Et donc, si c'est pas l'être, sauvage, brut, celui qui vous agresse, primo catitin talitus ens, ce qui est. Alors, voyez, cette phrase de saint Thomas ne peut se comprendre que par la primauté du jugement d'existence, ceci est. Alors, quand on dit, saint Thomas ne parle pas du jugement d'existence, oui, puisqu'il dit, primo catitin talitus ens. Je traduis que le jugement d'existence est premier, primo. Dans ce jugement, ceci est, au plein du critique, c'est l'être, ce qui est, qui spécifie, qui termine mon jugement. Ce qui est, c'est-à-dire l'être en acte, pas l'être en puissance, l'être en acte. Mais l'être en acte, non pas au niveau de l'induction comme être en acte, mais l'être en acte dans son exercice. Celui que je constate, que je touche, c'est un toucher. Le jugement est un coup de toucher. Tingain, je touche ce qui est. Mais ce qui est dans son exercice. Et dans son exercice qui est toujours un mode sensible. Je ne m'arrête pas au mode sensible et je touche et l'être dans son exercice tout à fait premier. Il y a uniquement ça dans ce chemin d'existence. Ceci est. Le ceci est complètement actué par l'être. Et c'est l'être qui termine mon jugement d'existence. Ce n'est pas détermination. Ce n'est pas telle ou telle couleur. C'est cela que Descartes n'a pas compris. Oui. On attaque Heidegger, on attaque Descartes pour montrer que Descartes n'a pas compris le chemin d'existence. Descartes a fondé toute sa méthode de doute sur le fait que dans l'expérience, je pouvais me tromper. Donc, il a regardé dans l'expérience la connaissance de telle forme, ou telle couleur, et non pas la saisie de ce qui est. Donc Descartes n'a pas regardé le jugement d'existence, il a regardé tout simplement telle ou telle forme sensible saisie dans l'expérience. Et c'est pour ça que là, je précise que le jugement d'existence n'est pas l'expérience. C'est un jugement de l'intelligence à travers l'expérience et au-delà de l'expérience. Je peux me tromper dans les couleurs. Le jugement d'existence est vrai. Parce que même si je vois le rouge à la place du bleu ou le bleu à la place du rouge, même si je vois que le bâton dans l'eau est coupé alors qu'il ne l'est pas, ça n'a aucune importance, il existe. Et mon jugement d'existence porte non pas sur telle ou telle forme sensible, mais sur l'existé de cette forme. Ceci est. Et ceci, c'est capital de comprendre cela. C'est ce que Descartes n'a pas compris, c'est ce que Heidegger n'a pas compris. Donc il faut dépasser ces deux pour retrouver ce que saint Thomas, lui, affirme. Primo catitin et talitus ens. Et ceci nous est donné dans une méta-expérience qui est le jugement d'existence. Ceci doit être très net. On doit en avoir l'évidence. Et chacun d'entre nous, on doit en avoir l'évidence. On ne doit pas répéter. Dans notre vie intellectuelle, on peut tous avoir l'évidence que le jugement d'existence est premier. C'est ça qui éveille ma vie intellectuelle. Mon intelligence s'éveille par le contact avec l'être. Elle ne s'éveille pas par le contact avec les formes sensibles. Elle s'éveille par le contact avec l'être. Alors que ce contact avec l'être, dans le monde d'aujourd'hui, est rare. C'est sûr. C'est sûr. La scolastique ne mettait plus du tout en lumière ce jugement d'existence. Du moins, moi, je n'ai pas vu dans la scolastique. Parce qu'on partait de l'expérience. Et on dit toujours que part de l'expérience. C'est très vrai que la philosophie, c'est part de l'expérience. Mais la métaphysique commence avec le jugement d'existence. Elle est au-delà de la physique. Elle est au-delà de l'éthique. Elle est au-delà de la philosophie de l'art. Donc, elle est au-delà de l'expérience. Ça, je peux dire que c'est une méta-expérience. Et ce jugement d'existence est d'une extraordinaire simplicité. Il ne peut pas être plus simple. Ceci est. J'unis ma connaissance quantitative du ceci avec la connaissance réaliste de l'exister. Je précise tout de suite que je n'ai pas de connaissance quantitative de ce qui est. Je n'ai qu'une connaissance dans un jugement. J'ai beau chercher à travers tous les prédicaments, il n'y a pas de prédicament être. Et les prédicaments me donnent toutes les connaissances quantitatives. Donc c'est un au-delà de la connaissance quantitative. Et cet au-delà de la connaissance quantitative, c'est le jugement. C'est l'intelligence parfaite, le jugement. Le jugement est une connaissance parfaite. J'ai conscience de ce jugement. Et j'ai conscience que c'est le jugement le plus simple. Parce que justement, il ne fait appel à la réalité. Et on a adhérent à la réalité, je respecte cette réalité telle qu'elle est. Et je la considère comme mesure de ce que je connais. Puisque ce que je connais, je l'assimile. Et je dépasse cette assimilation pour adhérer à la réalité et considérer la réalité comme mesure de ce que je connais. Alors ça, c'est capital. De comprendre que mon intelligence est capable de saisir la réalité, non seulement comme ce qui spécifie ma connaissance, mais comme ce qui est au-delà de ma connaissance. Comme mesure. Vous voyez, je ne comprends le réalisme de la connaissance que l'homme. Donc, en saisissant la réalité comme dépassant l'assimilation, là, je réponds à la critique de Sartre dans son livre « Situation » où il fait une critique sévère de toute la scolastique en disant « Cette philosophie qui ramène l'intelligence à l'assimilation. » Très belle critique, il faut la lire. Elle est très forte. La réponse de Sartre est fausse, mais elle est très intéressante comme critique. Parce que Sartre est un esprit, au plan critique, extrêmement pertinent. Il est malin. Dans sa critique, il est très fort. Et les critiques de Sartre sont toujours intéressantes. Ce qu'il dit en réponse, c'est à côté. Mais la critique est forte. Donc on doit, dans une critique, répondre à cette critique de Sartre. Pour montrer que, justement, je ne peux pas ramener la connaissance intellectuelle à ce mode d'assimilation. Que la scolastique ait fait ça, c'est vrai. La scolastique décadente a tout ramené à l'assimilation. C'est pour ça qu'elle a tout ramené à la définition. Et que c'est la définition qui commande tout le développement d'intelligence. Il y a dans la connaissance intellectuelle un contact avec la réalité qui est unique, au-delà des sens, mais par les sens et au-delà des sens. Je touche la réalité intellectuellement. C'est pas seulement mon toucher sensible. Si c'était mon toucher sensible, je ne toucherais jamais la réalité. Ah, vous voyez comme c'est important pour nous. Mettez ça en nota bene. Comme c'est important pour le croyant. Parce que il montre par là que l'intelligence saisit la réalité sans la déformer. En la respectant. Et par le fait même, il peut saisir qu'il y a un mode particulier de connaissance qu'on appelle la foi surnaturelle, qui a un réalisme divin. Ma philosophie a un réalisme humain au niveau de l'être. Mais si j'ai ce réalisme au niveau de l'être, je peux très bien comprendre qu'il peut y avoir c'est pas contradictoire, un réalisme divin qui vient directement d'une lumière surnaturelle reçue dans mon intelligence et qui me permet d'adhérer directement à Dieu qui se révèle. Et je passe d'un transcendant, du transcendant de l'être au transcendant de Dieu qui se révèle à moi. Le jugement d'existence au niveau philosophique, méta-expérience, le jugement d'existence au niveau de la foi, transcende complètement. Il est surnaturel. Je saisis la réalité. Je ne reste pas enfermé dans mon intentionnalité, dans mon vécu. Pourquoi Husserl met-il le jugement d'existence entre parenthèses? Parce que sa philosophie est une méta-mathématique. ne l'oublions pas. Husserl a fait un doctorat de mathématiques que je n'ai pas lu, mais que un de mes amis a lu. Il dit que c'est un très beau doctorat mathématique. Mais les mathématiques mettent entre parenthèses l'exister. Parce que c'est gênant. L'exister n'est pas mathématique. Et donc, relativise les mathématiques. Si je mets entre parenthèses l'exister, je demeure dans l'aspect de l'intentionnalité. Et je ne peux jamais rejoindre le réel. Et donc, j'ai une méta-mathématique pour la philosophie première. Et je reste dans l'intentionnalité. De sorte que toute la philosophie du CERN ne peut absolument pas servir à la théologie. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui est saisi par la métaphysique, par la philosophie du CERN, vous devez dire c'est terrible parce que du CERN coupe complètement de la contemplation. Il n'y a plus de contemplation. Parce que je contemple non pas l'intentionnalité, non pas les principes, je contemple le réel. J'analyse les principes. C'est la réflexion. Je ne peux contempler que le réel. De sorte qu'une philosophie qui se coupe délibérément de l'exister est une philosophie qui, par le fait même, ne peut plus contempler. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être servante de la foi. Et ça, c'est la critique la plus importante pour nous aujourd'hui. Tout se ramène à critiquer le jugement d'existence. Et montrer que le jugement d'existence est au-delà de la critique, puisqu'il s'appuie sur la réalité, et non pas sur l'intentionnalité. Toute critique se fonde sur l'intentionnalité, alors que le jugement d'existence atteint directement la réalité. Alors, évidemment, il présuppose que l'intelligence est une faculté spirituelle, naturelle. Que le nous, comme tel, est une puissance naturelle, faite pour connaître au niveau intellectuel. Ça, c'est au-delà de la critique. On ne peut pas tout critiquer, si on critique tout, on supprime tout. Parce que la critique est toujours seconde. Elle n'est jamais première. Qu'est-ce qui est premier dans le jugement d'existence? C'est la réalité qui est au-delà de ma connaissance et qui est au-delà de la critique. Vous voyez, mettez cet ordre-là et ça vous devez le faire dans ce point de vue critique. Ceci est mon jugement qui saisit ceci est les mesures de ma connaissance, de toute ma connaissance. Donc ma connaissance est toujours deuxième, seconde, ceci est premier, et la critique présuppose ma connaissance. Je critique ma connaissance. Je ne critique pas ceci est. Je ne peux pas le critiquer, ça. Tandis que je critique ma connaissance. Donc, vous voyez que la critique est en troisième lieu. Troisième position. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Depuis Kant, c'est capital. Depuis Descartes, c'est capital. Parce que pour Descartes, comme pour Kant, la critique est première. Alors on critique quoi? Descartes critique les idées innées. En voyant que les idées innées, c'est Dieu qui m'éclaire. Et c'est pour ça que tout le système de Descartes repose sur l'existence de Dieu. Descartes en face d'un athée ne peut rien dire. Absolument rien. Et c'est pour ça que Sartre n'hésite pas de dire, si Descartes avait fait sa philosophie notre temps, il se serait déclaré athée. Évidemment, c'est plus du tout Descartes. Vous voyez, parce que tout le... Vous voyez, si toute la position de Hegel repose sur « je suis luthérien », toute la position de Descartes repose « je crois en Dieu ». Vérité première. C'est très très curieux. Descartes veut montrer qu'il y a une certitude en dehors de la foi. Et tout son système repose sur le jugement d'existence de Dieu. Pas la foi, le jugement d'existence de Dieu. Tout repose là-dessus. Dieu est le gendarme de toute sa métaphysique, de toute sa réflexion. C'est Dieu qui, l'existence de Dieu, de la vérité première, qui pour lui est capitale. Donc ça ne repose pas sur le jugement d'existence. Dès qu'une philosophie ne repose plus sur le jugement d'existence, je comprends très bien que la critique devient première. Parce que la critique repose sur la réflexion, sur l'intentionnalité. Et s'il n'était pas premier, l'esprit est premier. Et l'esprit, c'est l'intentionnalité, c'est mon esprit. Et il y a une logique interne dans le développement de la philosophie, telle historiquement. Et pour nous, c'est important de revenir au-delà de Kant, au-delà Descartes, et de comprendre le réalisme de l'intelligence, au-delà de Stockham, puisque Descartes présuppose Occam. Et Kant présuppose Descartes. Alors on vient au-delà et on revient dans le chemin d'existence. Donc le chemin d'existence est capital au point de vue critique. Ce qui me permet de voir que mon intelligence n'est pas uniquement faculté d'assimilation, mais faculté d'adhésion à un réel que je connais et que je connais comme au-delà de ce que j'ai assimilé de lui. Si mon intelligence était une intelligence uniquement d'assimilation, d'intentionnalité, il n'y aurait plus de vérité. Je serais identique au réel. Il n'y aurait plus la distance entre les deux. La connaissance serait le reflet du réel dans mon intelligence. Et la vérité serait tout simplement le décalque de mon intelligence par rapport à la réalité. Vous voyez, donc il faut saisir comment ce jugement d'existence, au-delà de toute critique, est le point de départ de ma vie intellectuelle. Et dernier point, il ne peut pas y avoir d'autre point de départ. C'est aussi important, ça. Critiquer mon point de départ. Il ne peut pas y avoir d'autre point de départ. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'être, il n'y a rien. C'est l'être qui est l'être, ce qui est. Le fondement radical de toute ma connaissance et de tout ce qui est. Et c'est là où je saisis la primauté absolue de ce qui est. Je comprends alors que la définition de la vérité que donne saint Thomas est bonne, mais qu'elle demande d'être précisée. En philosophie et en critique, saint Thomas l'apprend en théologie, c'est très bien. Mais toujours la philosophie et la critique va plus loin au point de vue de l'intelligibilité que la théologie. sert de la philosophie. Et dès qu'on est serviteur, on est nécessairement diminué. On n'est plus au niveau de la sagesse. Ça, il faut bien comprendre ça. Et c'est capital. L'intelligence de saint Thomas, au point de vue philosophique, a été plus loin que ce qui nous est donné dans la Somme. Parce que quand on se sert de quelque chose, on le connaît, mais on ne dit pas tout ce qu'on connaît sur cette chose. On n'en dit que ce qui nous est utile. On fait ça tout le temps. Dès qu'on réfléchit sur ce que c'est qu'être au service de, réclame une purification, un dépouillement. C'est le rôle du serviteur. Alors, comprenons bien qu'il ne peut pas y avoir d'autre point de départ d'une philosophie réaliste que le jugement d'existence. Parce que ce jugement d'existence met l'intelligence face à ce qui est. Et je ne peux pas aller au-delà de l'être. Et je ne peux pas aller au-delà, au point de vue de la connaissance, au-delà de l'intelligence face à l'être. La critique est de l'ordre de l'intelligence. La philosophie est de l'ordre de l'intelligence. Donc, elle présuppose tout le temps la réalité et l'intelligence. La réalité dans ce qu'elle a de plus radical, ceci est, et l'intelligence dans ce qu'elle a de plus fondamental. Donc, je ne vois pas quelque chose qui pourrait être antérieur au jugement d'existence. Et je peux même dire que ce serait impossible. Parce que si c'était quelque chose qui était au-delà du jugement d'existence, je tomberais dans le possible et non plus en réel. Mais je peux me poser la question